l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous, chers et tous. Voilà, me revoilà dans le studio. Et nous allons repartir sur un sujet très, très important et très cuisant concernant notre devoir, en tout cas, de solidarité internationale. En tout cas, c'est ce que propose notre émission. Et donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Bikotois Batashoka, donc, qui est originaire du Congo. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important, en plus qu'il soit là spécialement aujourd'hui, c'est qu'il est originaire aussi de la région du Kivu, qui est une région qui actuellement est en grande souffrance, personne ne peut l'ignorer, par rapport à tout ce qui se passe, voilà, par rapport à ces massacres qui se passent et qui sont relativement très très horribles, je dirais, devant des instances internationales qui pour l'instant n'ont pas beaucoup bougé. Et voilà. Et donc, bonjour Christian.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, et donc je vais te donner la parole pour que tu nous dises un petit peu de ta souffrance. Enfin, en tout cas, tu m'as appelé au secours l'autre jour, au moment où j'étais en train de me dire, tiens, ce serait bien quand même qu'on reparle de cette histoire, vu l'actualité. Et voilà, et tu m'as confié quand même que c'était très compliqué, très difficile pour toi. Alors j'aimerais que tu nous dises un petit peu l'actualité, là, brûlante, cuisante et très douloureuse du moment.
Je vous remercie beaucoup, Marie-Claude, de me repasser cette parole. C'est toujours la RDC, la République démocratique du Congo, malmenée par cette guerre, et surtout l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là dans l'Est, dans le grand Kivu, comme nous l'appelons.
Oui, parce que c'est le nord et le sud Kivu.
Tout à fait, voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre avec cette situation, c'est que le nord Kivu, les Kivu, c'est une très très grande région. Il est subdivisé en trois. Nous avons le nord Kivu qui a comme capitale Goma, qui fait partie des capitales du pays, le plus important. Après, nous avons aussi, nous avons le sud Kivu, et qui a comme capitale Bukavu. Et nous avons aussi la région de Maniema qui n'est pas très, très touchée par cette situation. Donc, ces trois régions-là, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, constituent le Grand Kivu. Alors, ce Grand Kivu est à la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Alors, il se trouve que les combats ont repris après un certain moment d'accalmie. Et les combats se sont dirigés à Goma. Et dont cette capitale, Goma, est tombée dans les mains de la rébellion, s'il faut appeler ça rébellion, et ce groupe armé qui dirige cette rébellion, ce groupe armé, le fameux M23, M comme mouvement, cette guerre qui a repris dans le nord Kivu, a déjà fait plus de 3000 morts selon les rapports. Des experts des Nations Unies qui sont là, la MONUSCO, la mission des Nations Unies qui se trouve au Congo. Et cette guerre a aussi fait plus de 2500 blessés. Alors les hôpitaux sont vraiment, vraiment dépassés. Il n'y a même plus de place pour y mettre d'autres personnes. Et ces 3000, ce sont ceux-là qui sont comptés. Sinon, il y a d'autres qui ne sont pas comptés. Il y a des disparus. C'est ça le problème qui se trouve en République démocratique du Congo. Alors cette guerre, le bilan est édifiant. Les hôpitaux complètement détruits, avec les malades qui sont tués, car l'électricité par exemple est coupée dans la suite de cette guerre, et fait d'autres morts dans des hôpitaux, et que ces morts-là ne sont pas comptés. On compte seulement les gens qui sont tués par les milices et des groupes armés, et ainsi de suite. Il y a aussi un phénomène d'évasion des détenus de la prison, qu'on appelle la prison des Munzeze, au nord de Goma. Et après la destruction de cette prison, il y a eu des violences et des violations sur les prisonnières. Et 160 femmes ont été violées, selon les rapports des membres des Nations Unies qui sont sur place. Et plus de 100 morts ont été comptés dans cette prison. Alors, Nous avons 500 000 déplacés qui viennent s'ajouter sur les 1 million de déplacés qui existaient déjà depuis plus de 10 ans. Alors ça fait, nous sommes maintenant autour de plus de 1 500 000 déplacés. Donc vous comprenez que seule la ville de Goma bat les records de déplacés internes en matière de guerre. Alors, des conditions sont édifiantes parce que les gens vivent dans des conditions inhumaines les plus déplorables. Les gens vivent dans des abris de fortune. Les gens manquent de nourriture. Les gens manquent de médicaments. Alors, selon M. Volker Türk, qui est le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, il nous dit que la situation des droits humains en RDC inquiète, et surtout à Goma, avec beaucoup de victimes, dont les femmes et les enfants. Et les femmes sont violées, les enfants sont recrutés dans l'armée et dans les groupes armés, dont les M23 recrutent les enfants encore. Et ça va nous ramener dans la situation de 1997, lorsque M. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Le pouvoir, M. Désiré n'avait pas de militaires et avait recruté des enfants soldats. Mm-hmm. Alors nous revenons encore dans cette situation-là.
Oui, une petite parenthèse, Christian, c'est que les histoires d'enfants soldats, on voit déjà l'aberration et l'horreur que ça peut représenter déjà d'envoyer des enfants tuer d'autres personnes, de les recruter. Et il faut savoir qu'après, par la suite, c'est très difficile. Ce sont des gens qui sont très difficiles à récupérer, tellement ils ont vécu dans la violence que souvent, ils ont du mal à se réhabiliter en tant qu'humains. Voilà. Et que ça aussi, ça laisse des traces, des stigmates très profonds dans les pays, dans les régions qui ont embauchés, qui ont fait combattre des enfants.
Faut tout dire à ça fait, aussi. Tout à fait, Marie-Claude.
Ça aussi, ça fait partie des difficultés.
Oui. Et surtout que c'est des enfants qui ne sont pas formés.
Oui, tout à fait.
C'est des véritables chiens à canon
qu'on
met devant pour aller se faire tuer. Et c'est surtout aussi que c'est des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Parce qu'il faut se dire qu'en 30 années de guerre maintenant, parce que cette guerre maintenant, ça fait 30 ans que ça dure. Et en 30 années, on trouve des personnes âgées de 30 ans qui n'ont jamais foulé les pieds à l'école. Et on se pose même la question quant à l'avenir intellectuel de ce pays. Dans les années qui viennent, la RDC manquera d'intellectuels parce que ça fait 30 ans que les personnes ne sont pas allées à l'école. Voilà, ce sont ces genres d'enfants qui sont victimes.
Tout à fait, ce sont des victimes parce que quand ils, par chance, ils survivent, ils sont complètement à la fois pas du tout éduqués, pas du tout de réflexion et en même temps ils ont vécu dans la violence et donc c'est très difficile de les récupérer.
Tout à fait, nous sommes dans cette situation-là en République démocratique du Congo.
Ça s'ajoute aux autres difficultés.
Tout à fait, voilà. Alors, ces problèmes, si on regarde bien ce qui se passe sur le terrain, il se pose le problème d'abord sur le plan interne. Sur le plan interne, et nous avons cette situation d'illégitimité de pouvoir. Nous avons des gens qui sont arrivés au pouvoir sans être élus. Et l'actuel président ne doit rien à la population congolaise parce qu'il n'a pas été élu. Il a été seulement mis là-bas par une forme de deal entre lui et le président et son prédécesseur et les Rwandais. C'est Monsieur Kagame, le président du Rwanda, qui était à ce moment-là le président de l'Union africaine, et qui a fait que ce monsieur soit au pouvoir aujourd'hui.
Donc il est au pouvoir grâce au chef de l'État rwandais.
Tout à fait, voilà.
Pour se résumer. Donc déjà, on voit bien les accointances qu'on peut suspecter.
Pour arriver à se disputer après... par manque de respect, de contrats entre eux. Et ça se passe comme ça, en Afrique surtout. Sur le plan interne, il ne s'agit pas seulement de ce problème d'illégitimité de pouvoir. Il s'agit aussi de la mauvaise gouvernance.
Tout à fait.
Ajouté à cela, il est illégitime ce monsieur parce qu'il n'a pas été élu, mais aussi... son action est très très mauvaise et très très chaotique. C'est une véritable mauvaise gouvernance. Corruption généralisée, détournement des fonds. Et nous avons plusieurs rapports, et surtout les rapports des Nations Unies, Et si je cite le dernier rapport de la Banque mondiale et qui nous dit qu'il se fait qu'en République démocratique du Congo, que 15 milliards de dollars américains sont détournés chaque année dans un pays où le budget de l'État est estimé à 15 millions de dollars par an. Donc, c'est tout simplement incroyable. Or, les rapports de la Banque mondiale, qui est sorti aussi il y a une année, et nous dit qu'il faut absolument un budget de plus de 150 milliards de dollars américains pour faire décoller l'économie congolaise. Bon, mais l'année dernière, le budget qui a été voté, et c'est un budget de 16 milliards de dollars, donc 10 fois moins. On comprend qu'au Congo, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir une situation économique qui est améliorée parce que les objectifs ne sont même pas atteints. Il faut 150 milliards et on présente seulement 16 milliards, 10 fois moins. C'est tout simplement possible d'avancer dans ce genre de situation. Il y a aussi, à côté de ces causes internes, il y a aussi les causes externes. Et parmi les causes externes, on parle de l'agression rwandaise. Et c'est là où on est aujourd'hui. Parce que si on parle du M23, il faut comprendre tout simplement que ce mouvement est une émanation d'une conception rwandaise. Alors, ces gens-là, d'où viennent-ils pour qu'ils soient assistés, accompagnés, aidés par le Rwanda? Le M23 est constitué tout simplement et essentiellement par des Congolais, s'il faut le dire, des Congolais, mais d'origine rwandaise. Et essentiellement, Tutsi. Et ce qui fait que et M. Kagame dit que ces gens-là, c'est des Rwandais, ils sont venus du Rwanda, donc, et comme ils sont marginalisés, entre guillemets, par d'autres Congolais, il faut les aider, il faut les armer, il faut les permettre à s'imposer. Et c'est comme ça que M. Kagame est derrière le groupe M23. Mais le président du Rwanda a d'autres agendas. Ce n'est pas seulement aider les M23, parce que M. Kagame revendique des territoires en République démocratique du Congo. M. Kagame veut récupérer les soi-disant territoires qui ont été, les soi-disant territoires rwandais qui ont été annexés au Congo lors de la conférence de Berlin de 1885. Donc ce monsieur, il essaie de remonter les temps pour essayer de donner crédibilité à ce qu'il fait en République démocratique du Congo. Mais le problème des frontières au Congo a été résolu par la conférence des chefs d'État tenue en Égypte en 1964, au Caire. Cette conférence a adopté un principe qu'on appelle le principe d'intangibilité des frontières. Et ce qui veut dire tout simplement que les frontières issues de la colonisation ou des accords de Berlin ne doivent pas être changées. Parce qu'au risque de créer encore des troubles en Afrique.
Et on va dire que c'est une disposition très importante, justement, qui normalement devrait apaiser.
Et normalement, ça devrait apaiser.
Ça devrait apaiser.
Mais quand on a une personne qui vit encore remuer cette situation, on se rend compte que cette personne ne fait pas la paix.
Oui, tout à fait. Elle n'est pas du tout dans... Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, c'est que quand même, si on comprend bien, il y a tout ça, il y a les problématiques entre les pays, etc., et avec le Rwanda particulièrement, mais en même temps, quand tu parlais de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion, on peut comprendre qu'à un moment, à une agression extérieure, comme le M23 dont tu viens de parler, à une agression extérieure, il est difficile qu'un pays se défende puisque, par essence, tout est mal géré, que ce soit l'équipement, que ce soit le recrutement de l'armée, etc., etc. Que donc, ça participe vraiment de cette difficulté et de l'augmentation peut-être du nombre de massacrés, de tués et de violés. Quand il n'y a pas de loi, il y a tout, n'importe quoi. Et moi, j'ai lu des articles où effectivement on insiste beaucoup aussi parce que bon, il y a les morts, effectivement il y en a beaucoup trop, mais en même temps sur les viols, parce que ça laisse des plaies, apparemment c'est en ce moment c'est très 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 violent et très important, ça aussi.
Tout à fait.
Même si elles ne meurent pas, les femmes, elles sont quand même blessées.
Exactement, et blessées pour définitivement.
Tout définitivement.
Et on est dans un pays où, en 30 années de guerre, on a 15 millions de morts. Mmh. Et là, c'est le chiffre qui a été donné en 2000 et en 2022. Mmh. Et depuis là, on a arrêté de compter, puisqu'on n'en peut plus. Mmh. Et c'est des centaines, plusieurs centaines de tués par jour. Mmh. On a arrêté de compter. Jusqu'en 2022, on est à 15 millions. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Mmh. On est maintenant à combien? On n'en sait plus rien. Mmh. Donc, disons 15 millions de morts en 30 années. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous sommes dans la situation où il y a 500 000 femmes atrocement violées. Et c'est le docteur Mukwege qui l'explique lors de l'obtention du prix Nobel. Il y a quelques années là-bas.
Ce qui explique d'ailleurs qu'il se soit vraiment spécialisé dans ce secteur-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire.
Tout à fait. Et M. Mukwege donne une situation générale de ces femmes-là. Mmh. Et c'est très édifiant. Il nous parle des femmes qui viennent à l'hôpital entièrement détruites.
Tout à fait.
Il nous dit qu'il ne s'agit pas de simples viols. Hein. C'est des viols avec des instruments contondants qui détruisent des femmes complètement. Et lui, le docteur Mukwege, nous dit qu'après avoir procédé à l'intervention chirurgicale de ces femmes, certaines femmes ne mettront plus au monde.
Elles seront stériles.
Plus grave encore, il y a certaines femmes et qui subissent l'ablation complète de l'utérus. Donc ces femmes ne pourront même plus avoir une relation sexuelle. Vous voyez comment est-ce que la destruction de l'être humain est faite par ces mouvements-là. Et nous avons un pays qui a un plus grand nombre de déplacés internes. Et jusqu'en 2024, on était à 7 millions de déplacés internes. Mais aujourd'hui, avec cette situation de Goma,
ça va être beaucoup plus. Alors, Christian, c'est haletant et c'est vraiment très, 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 très terrible. Et donc, je propose qu'on fasse une petite... On va un peu s'oxygéner. Tu nous as choisi, je crois, un morceau que tu affectionnes. Et on va faire une petite pause musicale pour retomber un peu la pression et pour pouvoir repartir d'un bon pied dans cette lutte et ce combat.
Tout à fait.
Voilà. Alors, tu nous proposes...
Alors, comme nous sommes dans une situation de guerre chez nous, nous sommes dans une situation de malheur. J'ai choisi une chanson qui nous parle de la mort des gens qui sont décédés. Mmh. Et c'est une chanson interprétée par Rochereau, et qui est un grand chanteur de la République démocratique du Congo, mais qui est décédé aussi.
Qui est décédé, voilà. D'accord. Ok. Donc, voilà, Rochereau, donc, et à tout à l'heure.
Mokona Kokouf.
Nakani sa lopango na baka mignon, nakani ni sabana ngana kinda na poto mama mokola na kokufa mokola na kokufa kai motu ya kwiti nakanisa kopo ya masanga nanga nakanisa nini kakasuka ya sanza tango na mbela kakai na baninga ah mama mokola na kokufa Mwasi ya ndumba Nakanisa nini kaka perika nanga Nakanisa nini kaka bilamba nanga Nakole la kaka Afrika fiesta epika la mama Mwakola na kokufa Gita
Après ce beau voyage, une chanson à la fois triste et en même temps terriblement musicale, on vous retrouve, je me retrouve dans le studio avec Christian Bikotois Batashoka, donc originaire du Congo, mais encore plus du Kivu. Et voilà, nous sommes en train de parler de tout ce qui se passe actuellement, qui est toutes ces horreurs. Christian nous sensibilise un petit peu sur un peu toutes les problématiques, que ce soit internationales et nationales. Et simplement, je voulais rebondir sur le fait que j'ai vu il y a quelques mois un film que je recommande à tous nos auditeurs, qui s'appelle L'Empire du silence, qui a été réalisé par un réalisateur belge, Thierry Michel, qui est un amoureux du Congo, et qui a fait ce film en partenariat avec le docteur Mukwege, dont nous a parlé Christian tout à l'heure. Et pour vous rappeler que ce monsieur qui répare les femmes, justement, on parlait de viol tout à l'heure, a été prix Nobel, elle a été reçue au Nobel, et qu'il avait fait un discours où il alertait sur la situation. Et malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées, il semblerait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Christian, tu nous as dit, à un moment, tu as dit simplement, les combats ont repris. C'est-à-dire qu'on parle d'une actualité, mais que cette actualité, c'est pas récent. Ça vient de loin. Les combats ont repris.
Tout à fait. En fait, il ne faut pas seulement se limiter à ces quelques jours-là de la reprise des combats à Goma. Et cette situation est dure depuis longtemps. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. qui sont la région du Kivu et plus particulièrement du nord et sud Kivu sont malmenés. Et pour comprendre cette situation, il faut se poser la question d'origine de cette guerre.
Mmh.
Alors, la guerre au Congo a d'origine d'abord ethnique, et là aussi des origines politiques, mais la guerre a aussi des origines économiques.
Économiques, ouais. C'est ça. C'est ça qu'il faut bien préciser. Ouais, hein.
Ouais. Ouais. D'abord, ethnique, pourquoi et comment ? C'est parce que tout simplement, jusqu'à 1990, il y a la paix dans la région du Grand Lac. Mmh. Il n'y a pas de problème, à part quelques tueries au Burundi entre les ethnies Hutu et Tutsi.
Mmh.
Et au Rwanda, cette situation était maîtrisée par une dictature d'Habyarimana, il faut le dire.
Mmh.
Et c'était lui le président du Rwanda jusqu'à 1994. Et en fait, au Rwanda, il y a trois ethnies. Il y a les Hutus, les Tutsi et les Twa, qu'on appelle les Pygmées.
Mmh.
Et les deux premiers, là, les Hutus et les Tutsis, c'est des ethnies rivaux.
Mmh.
Ils se sont battus et les Tutsis sont partis en exil en Ouganda. Et là, en Ouganda, ils se sont organisés pour revenir chez eux au Rwanda militairement.
Mmh.
Et arrivant au Rwanda, il y a une bataille qui a commencé en 1990 et a pris fin en 1994. Mais les Tutsis sont arrivés à chasser les Hutus au pouvoir depuis les années de l'indépendance. Et ces Hutus renversés au pouvoir se sont retrouvés au Congo, en RDC. Et à l'époque, c'était les Zaïre,
les Zaïre,
Mobutu, Marcel Mobutu, Sese Seko, Okungwendu, Azabanga. Et alors, à ce moment-là, au pouvoir à Kigali, Monsieur Kagame, qui était vice-président, à ce moment-là, il n'était pas encore président de la République du Rwanda, il était vice-président, mais c'était lui l'homme fort. Le président, c'était une marionnette, mais c'est Kagame qui tirait la manette. Et a demandé à ce que le gouvernement zaïrois soit arrête les gens qui lui appelaient génocidaires, c'est-à-dire qui ont tué les gens au Rwanda, et les ramener au Rwanda, ou de les repousser, de les éloigner de la frontière du Rwanda, parce qu'ils étaient juste parqués, les camps de réfugiés étaient construits juste à la frontière du Rwanda. Et Mobutu n'a pas fait ça. Et c'est ainsi que Monsieur Kagame a fait tout de son possible pour rentrer au Congo. Alors, l'occasion lui est tombée dessus lorsqu'on lui présente, les États-Unis d'Amérique, c'est faut le dire, lui présente un certain Laurent Désiré Kabila pour aller renverser M. Mobutu. Mais Laurent Désiré Kabila n'a pas de militaires. Et il va utiliser l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est à ce moment-là que M. Kagame a eu l'occasion d'aller poursuivre maintenant ce qu'il appelle les génocidaires qui étaient au Congo. Et arrivant au Congo, M. Kagame a tout simplement nettoyé le camp des réfugiés. La première nuit que l'armée rwandaise est rentrée au Congo, le lendemain, on n'a rencontré que des cadavres dans le camp des réfugiés. Il a vraiment nettoyé le camp des réfugiés. Et depuis là, la guerre ne s'est pas arrêtée puisque l'armée rwandaise n'est plus retournée au Rwanda. Et l'armée rwandaise, le Kagame a dit, au lieu de se limiter là, quitte à aller jusqu'à Kinshasa, accompagner maintenant M. Laurent Désiré Kabila pour aller renverser Mobutu. Ils sont allés jusqu'à Kinshasa et Mobutu a été renversé. Alors, ils arrivent à Kinshasa, M. Kagame impose même à M. Kabila un chef d'état-major général des armées congolaises, un Rwandais, Monsieur James Kabarebe, qui était officier de M. Kagame, qui devient maintenant chef d'état-major général des armées au Congo. Mais, alors, aujourd'hui, M. Kagame dit que au Congo, il y a un groupe armé qui revient faire des troubles au Rwanda. Et ce groupe armé, c'est ce qu'il appelait les FDLR, donc le Front démocratique pour la libération du Rwanda. Et ces FDLR sont composés, en fait, selon Kagame, par les anciens militaires de l'armée rwandaise et la milice qu'on appelle Interahamwe, qui a commis des massacres au Rwanda. Mais Monsieur Kagame, son chef, son ami James Karabarebe a été chef d'état-major général des armées pendant 2 ans au Congo. 2 années, il n'a pas réussi à éradiquer ces Interahamwe, ces FDLR qui sont là, pour dire tout simplement que ces gens-là n'existaient pas. Mm-hmm. Ça, c'est une raison, c'est un prétexte pour Kagame pour rester au Congo. Mm-hmm. Puisque son problème maintenant, c'est quoi? C'est les richesses congolaises. Mm-hmm. Il faut qu'il exploite le Congo, il faut qu'il conquise des territoires au Congo, et pour y rester, il faut qu'il dise que j'ai des gens qui viennent mettre des troubles au Rwanda et je dois les poursuivre. C'est ça la cause de l'explosion. Ça, c'est des raisons. Ça, c'est ce que moi j'appelle, c'est ce que moi j'ai appelé une raison ethnique que Kagame avance. Mais il y a aussi une raison politique. Mm-hmm. La raison politique, c'est que Monsieur Kabila, quand il était arrivé au pouvoir, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise ne l'ont pas accompagné par altruisme. Mmh. Ils avaient des intérêts.
Tout à fait.
Et ces intérêts n'ont pas été respectés par M. Kabila. Mmh. Et ce qui fait que le Rwanda et l'Ouganda ont combattu Kabila, ont combattu les fils de Kabila, et ils sont là en train de combattre M. Tshisekedi parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas été respectés.
Alors tout ça, ce sont des choses larvées qu'on comprend mieux maintenant avec les éclaircissements, parce qu'on va devoir arrêter, Christian, je suis désolée. C'est un peu compliqué, mais c'est bien, ça nous éclaire bien. Et moi, la question qui vient souvent et qui me vient souvent et qui vient à d'autres aussi, c'est pourquoi depuis tant de temps ça dure, pourquoi ça n'a pas été dénoncé, etc. Alors j'ai envie d'être optimiste, j'aime bien l'être. J'ai envie de dire que peut-être actuellement ces massacres actuels, c'est la goutte d'eau et que là j'avais envie de donner une petite information qui vient de RFI, c'est que le vice-ministre de la Justice, maître Samuel Bemba, congolais donc, a souligné hier lors d'une conférence de presse l'importance de mobiliser les victimes, les témoins et les organisations, tant nationales qu'internationales, capables de fournir des éléments de preuve à la Cour pénale internationale. Donc on voit déjà que, bon, on espère, on va vraiment croiser les doigts. Ouais. Et si on est croyant, on fait des prières aussi, parce que c'est important. Et il a également évoqué l'ouverture d'un procès contre le Rwanda, parce que tu nous as éclairé un petit peu le pourquoi du comment. Hein. Ouais. Grâce à toi, on comprend mieux pourquoi contre le Rwanda, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la première audience est prévue le 12 février, donc dans 2 jours. Donc on va suivre ça de très 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 près. C'est dans, ouais, Africa News que ça a été... Voilà, et donc c'est important aussi les appels à témoins. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à tout ce que tu nous as dit, c'est que l'appel à témoins, c'est aussi les organisations nationales et internationales. Donc ça veut dire que là, on fait déborder un petit peu les choses, ouais, et on officialise encore plus que ça n'a été, parce que jusque-là, on peut se demander pourquoi. Mmh. Pourquoi on a laissé toutes ces horreurs, pourquoi, alors on en parle d'ailleurs dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, L'Empire du silence, mais bon, tu nous interpelles là-dessus aussi. Donc voilà, donc on espère bien, on croise bien les doigts et on espère que ça va arriver. Alors, comme je suis désolée, Christian, je te laisserai la dernière parole, mais est-ce que tu peux aussi nous dire, parce que peut-être, est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'il y a des choses qui font que, des systèmes qui font qu'on pourrait peut-être aider cette cause-là?
Oui, face à ces reprises de combat, mm, le mois dernier à Goma,
oui,
qui a fait déjà 3000,
oui, voilà, et 3000 officiellement, 3000 morts, voilà, et 3000, ouais, blessés, et, ouais, sans compter toutes les femmes violées et Dieu sait qu'il y en a.
Ça, voilà, ouais, d'accord. Ouais. Et nous avons mis en place une cagnotte pour essayer de soutenir, mm, les gens qui sont là-bas, ne serait-ce qu'en termes de médicaments, de nourriture.
Et, oui, parce qu'il n'y a plus rien. Et puis les secours ne pouvaient pas arriver non plus, jusqu'à, voilà, maintenant. Alors, ouais. Peut-être que ça va commencer à arriver, mais les secours ne pouvaient même pas se présenter vu la violence.
Parce que
déjà,
l'aéroport de Goma est bloqué. Il, mm, n'y a plus d'atterrissage, mm, d'avion à l'aéroport, il n'y a pas de décollage. Mm. Mais comme nous avons... le moyen à contacter les gens là-bas, mm, et qu'on peut leur faire parvenir et ce que nous récoltons ici comme argent, mm, et déjà la première partie déjà est partie, parce que c'est pas grand chose, c'est presque décevant, mais bon, c'est comme ça, mm, on a réussi à envoyer déjà une somme de 400 euros, mm, bon, ils vont se servir de cet argent pour acheter des médicaments surtout.
Oui, déjà.
Et soigner les gens. Mm. Mais la cagnotte continue. Mm. Et pour nous aider, il faut contacter une personne, que je vais vous donner le nom ici.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Il s'appelle Yvette Camilleri, Yvette comme Yvette seulement, et Camilleri.
Avec un K Avec un K
Non, avec un C.
Avec un C, ah, d'accord.
C-A-M-I-L-L-E-R-I.
Oui, voilà. D'accord. Et, ouais. Voilà.
Et il faut la contacter au numéro 06 30 95 11 02. Voilà, c'est cette personne qui organise tout. Et si vous l'appelez, il va vous dire comment vous connecter pour entrer sur le site et nous faire un don pour ces gens-là qui souffrent.
Donc en disant bien que c'est un don pour le Kivu.
Pour là, c'est pour le Sud Kivu.
Pour le Sud Kivu, voilà. Le Sud Kivu, d'accord. Donc Madame Camilleri, hein, c'est ça, Yvette. Ok. Ta parole de la fin, c'est quoi?
Alors, je demande à ce que cette fois-là, que nous soyons attentifs à tout ce qui se passe, et surtout avec ce procès maintenant qui va être intenté par le gouvernement congolais, et pour qu'enfin...
Qu'officiellement,
voilà,
le monde reconnaisse.
Voilà, et pour qu'enfin qu'on essaie de voir si cette fois-là, et cet homme-là sera au moins sanctionné.
D'accord. Voilà. Alors, on espère, on y croit. Merci, Christian. Et on te recevra une prochaine fois pour voir un peu où ça en est.
Merci beaucoup. Au revoir.